Hello à tous, ici Pauline Néniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements, vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel d'ailleurs. Et si le concept vous plaît, que de façon générale le podcast vous fait passer un bon moment, la meilleure manière de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est simplement de mettre une note sympathique ou encore mieux un petit mot doux sur iTunes, voire même d'en parler autour de vous. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait et d'ailleurs un immense merci pour ça. Et pour les autres, sachez que ça compte vraiment beaucoup pour donner de la visibilité au gratin, donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes de votre temps, aller sur iTunes via votre ordi ou votre mobile et à mettre une petite note ou un avis, ça compte vraiment. Voilà, et enfin, si vous souhaitez me faire des feedbacks, me contacter ou me proposer des idées de questions ou d'invités, n'hésitez pas à le faire via mes réseaux sociaux et en particulier sur Twitter et Instagram au pseudonyme P. Legno. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Sarah Danint. J'ai déjà publié la semaine dernière un premier épisode où j'invitais Sarah, mais avec Sarah, on a passé un tellement bon moment qu'on n'a pas vu trop le temps passer et j'ai donc décidé de garder tout ce contenu extraordinaire et de vous le livrer dans une conversation en 2 épisodes et non pas un seul. Du coup, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite à le faire maintenant pour être sûr de ne rien perdre de l'histoire absolument incroyable de Sarah. Et dans la première partie, justement, je voulais parler sport, je voulais parler performance, objectifs de vie, comment les déterminer, comment suivre le plan qu'on s'est fixé. Vous savez maintenant que ce sont des sujets qui me parlent beaucoup. Donc on a parlé avec Sarah de sa carrière d'escrimeuse, de son but de vie ultime, faire quelque chose d'extraordinaire, et c'était d'ailleurs le titre de l'épisode numéro 1, mais aussi de comment suivre le plan fixé malgré les accidents que la vie peut mettre sur notre chemin. Dans cette deuxième partie, en revanche, de notre conversation, on a abordé des sujets encore plus intimes, notamment un sujet sur lequel vous me faites souvent des demandes, je dois dire, celui de la répartition entre vie personnelle et vie professionnelle. Et trouver un équilibre pro-perso est déjà difficile, on le sait bien, quand on a un job prenant. Mais imaginez que dans le cadre d'une vie comme celle de Sarah, dont tout est entièrement dédié et tourné depuis l'âge de 15 ans vers un objectif ultime aussi ambitieux qu'avoir une médaille olympique, remplir le challenge de l'équilibre vie perso et pro devient presque un prodige. Le fin mot de l'histoire, du coup, c'est une réalisation certes douloureuse, mais qui a le mérite d'être honnête, et je trouve un peu cathartique, c'est que tout avoir en même temps est impossible, et face à de tels objectifs de vie, il faut faire des choix, accepter des compromis, en tout cas durant le temps nécessaire pour atteindre son but. On a aussi parlé des combats de Sarah, pour la cause homosexuelle en particulier, ou pour l'association Premier de Cordée qui propose des initiations sportives à des enfants hospitalisés et que Sarah soutient activement. On a aussi évoqué son coming out, la difficile conversation qu'il a fallu avoir avec sa famille, pas simple comme vous pouvez l'imaginer, sa retraite du monde du sport de haut niveau et sa reconversion dans le digital, ce qui fait maintenant sens pour elle et des livres qui l'ont le plus marqué. Comme vous l'aurez compris, Sarah nous a fait un cadeau magnifique et je tiens à la remercier, celui d'être 100% elle-même, 100% Sarah Danint et de se livrer avec autant de sincérité que de lucidité. Vous pourrez la remercier sur son Instagram via le pseudonyme Sarah Danint, tout attaché. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec l'unique Sarah Danint. Un des sujets que je voulais aborder avec toi, parce que je peux imaginer que c'est particulier dans la vie d'un sportif, c'est la répartition du temps entre vie perso et vie pro. J'ai beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui me posent la question, qui me disent « Est-ce que c'est possible d'avoir une vie personnelle quand on travaille énormément ?» Que ce soit d'ailleurs dans le milieu entrepreneurial, dans un grand groupe corporate, etc., ou dans le milieu sportif. Toi, en fait, on en a vachement parlé dans la première partie. En fait, tu avais un plan, tu avais un objectif, donc je peux imaginer qu'en plus, ce plan fait que le reste devait s'adapter. Mais est-ce que du coup, tu peux m'en parler et juste me dire, est-ce que tu y as réfléchi et comment s'est organisé un peu finalement ta vie personnelle par rapport à ta vie pro qui était si prenante?
C'est vrai, là, que tu me parles du plan. Et en fait, c'est juste. Le plan, l'objectif était toujours la médaille olympique. Et c'est vrai que le reste, même si c'est important, parce que l'amour de la famille ou l'amour d'un partenaire de vie reste important dans une vie, quelle qu'elle soit. Mais ce sont effectivement, elles viennent s'accrocher au plan, en fait. Donc ça reste toujours, toujours important de rester fixé sur l'objectif. C'est pas égoïste, hein, c'est faut, parce qu'on a besoin quand même de cet équilibre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est pas évident, effectivement, d'être sportif de haut niveau avec un niveau international olympique et d'avoir une vie privée. C'est-à-dire que, ben, sans parler de la personne avec laquelle on vit, moi, mes neveux, par exemple, je les ai pas vus grandir à un moment donné parce que j'ai fait le choix, en tout cas, d'aller chercher cette médaille-là pendant, ils étaient très jeunes. Après, ce qui est compliqué, c'est on peut tomber sur quelqu'un de très sympa dans la vie, voilà, mais c'est pas évident pour l'autre d'accepter, en fait.
Bien sûr.
Parce que finalement, et puis moi je fais de l'escrime, je fais un sport qui m'a permis de voyager un peu partout dans le monde quasi, mais il y a des gens qui partent des mois, en fait, qui partent des mois en compète, en stage, qui enchaînent. Moi, je revenais toujours chez moi. Je passais quand même, il y a des périodes où je passais 10 jours, 2 semaines par mois chez moi, ce qui n'est pas énorme. Donc, c'est pas évident quand même pour votre partenaire de vie de comprendre, de vous laisser du temps et puis même pour vous d'ailleurs, parce que vous êtes concentré sur votre objectif, mais il faut aussi quand même laisser un peu de place aussi à la personne avec qui vous vivez. Et c'est pas si simple parce que y a beaucoup de, moi je connais beaucoup d'athlètes qui ont eu du mal à trouver ou à être avec quelqu'un qui l'entende. Et puis surtout, même eux, à laisser de la place à cette personne, parce que même si le projet est très important, après l'amour, ben, on sait tous que les ravages et les belles choses que ça peut créer en chacun d'entre nous. Mais ouais, il faut aussi arriver à laisser de la place aussi à notre partenaire. Et pour le coup, c'est d'autant plus compliqué, je pense, quand même pour une nana, parce que, par exemple, pour avoir un enfant, une Olympiade, c'est 4 ans.
Ouais.
Une Olympiade, c'est 4 ans. Une sélection officielle aux Jeux Olympiques, c'est 2 ans. Avant la sélection officielle, il faut quand même arriver à être au niveau international et ensuite à rentrer dans le groupe France. Donc, il faut compter quand même au moins un an. Donc, ce qui fait que sur une Olympiade de 4 ans, il faut compter 3 ans. Sur ces 3 ans-là, vous êtes à fond dans votre projet.
Ouais.
On sait que quand les femmes sont enceintes, elles ont un taux d'hormones assez fort et voilà, on sait ce que ça signifie. Donc excitation, ça veut dire on se sent forte, etc. Bon, à une certaine, au début, hein, on est bien d'accord, pas fatigué, tout ça.
Évitez de faire des Olympiques à 9 mois, mesdames.
Oui, c'est sûr, mais il y a énormément d'ailleurs pendant pas mal d'années, je crois que c'était dans la gym, mais sûrement dans d'autres sports, en Russie et en Chine aussi après, mais en Russie c'était quand même assez connu, où c'est pas très beau ce que je vais dire, mais c'est une réalité parce que ça s'est fait pendant des années, où ils n'utilisaient pas de dopage, tous les trucs, les produits dopants, je connais même pas en plus, la catastrophe, mais tant mieux. Mais ils s'arrangeaient une certaine période pour que les athlètes femmes, enfin les athlètes tombent enceintes et aient justement cette énergie, ce regain, les hormones, etc. Donc en fait, quand on prépare une Olympiade, ben, et qu'on voilà, vous avez un partenaire qui vous dit ben ouais, j'aimerais bien avoir un enfant, etc. Ben en fait, on le planifie, on planifie avoir un enfant, on planifie tout. Ça va peut-être choquer les gens parce qu'ils vont se dire ben, que finalement on n'a plus de liberté ou qu'on ne, il y a plus d'instinctivité dans tout, mais on n'a juste pas le choix. Une Olympiade, c'est tous les 4 ans, on peut pas la rater.
Ouais,
en fait.
C'est sûr.
Donc c'est ça. Donc,
non, mais je comprends complètement. Et une question que je voulais te poser, c'est est-ce que pour que ce soit avec ta famille peut-être ou avec tes partenaires, j'imagine quand même que c'est pas facile quand t'es extérieur, même si on comprend ton implication, ton investissement pour ton sport. Est-ce qu'à un moment donné, t'as une conversation avec ces personnes pour leur dire en fait, ma vie, c'est ce sport, je m'y dédie, c'est hyper important pour moi, et en fait, je suis désolée, mais je vais devoir faire plein de sacrifices, et du coup, on va, dans notre couple ou dans notre vie de famille, faire plein de sacrifices, et en fait, je préfère te le dire pour que tu sois au courant, parce que c'est vrai que je peux imaginer que quelqu'un qui débarque, entre guillemets, dans ta vie, connaît pas ce monde-là, tu vois, c'est difficile.
En fait, ça marche pas si on n'est pas honnête avec soi, ni avec son partenaire. Parce que, ouais, si on parle d'équilibre, c'est qu'à un moment donné, on se rencontre, je sais pas, à 6 ans des Jeux, et puis voilà, les choses deviennent un peu plus sérieuses. Oui, à un moment donné, on est de toute façon obligé de dire, mon objectif c'est les Jeux. C'est vrai qu'entre nous ça roule, mais faut que tu entendes que c'est primordial, c'est presque vital en fait. C'est encore une fois, l'objectif est tellement important que je parle de l'objectif et pas de l'enjeu, que finalement, ça fait vraiment corps avec soi, quoi. C'est vraiment dans l'ADN. C'est un truc que j'arrive vraiment pas à expliquer, mais c'est plus grand que nous, en fait.
Ouais,
donc,
Et t'as eu des moments.
Donc c'est une évidence, en fait. On est obligé à un moment de parler de ce qu'on veut faire dans son sport et de ce que ça va amener et que si on n'est pas direct, au moins on laisse comprendre que ça va être dur, quoi. Que pendant plusieurs jours ou semaines, on va pas se voir, peut-être quelques mois. Que le matin, on va partir à 6h du matin, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Ben, on va aller courir, en fait. On va aller courir 1h30. On va peut-être pas prendre le petit déjà avec toi parce qu'on va enchaîner direct avec le boulot. Et que le soir, on va rentrer à 23h rincé et qu'il va falloir se doucher et manger et être fatigué et ne pas forcément avoir envie d'entendre que ta journée s'est bien passée ou pas. C'est pas méchant, mais c'est vrai, c'est une réalité et c'est vraiment pas simple à gérer. Mais il faut aussi accorder du temps et de l'espace à l'autre. C'est important.
Et t'as eu des moments justement, tu me dis si ça devient trop personnel, mais des moments vraiment durs du coup dans ton couple ou dans ta vie de famille parce que t'étais tiraillé entre guillemets entre les deux, où finalement le plan était tellement fort et t'as réussi aussi à communiquer bien peut-être que c'était pas le cas, mais tu vois peut-être si tu pars en voyage hyper longtemps ou si je peux imaginer que c'est dur, quoi.
Alors je vais être moi, donc je vais répondre de manière assez transparente. Alors je sais pas si tu vas couper ou pas, mais
je coupe quand on me demande uniquement, donc pas beaucoup en général.
Alors on va parler clairement. Oui, il y a une période qui était un peu compliquée. Faut savoir que, pour revenir un peu à l'idée des hormones et des femmes enceintes, le sexe est important dans la vie d'athlète. Alors, déjà d'une manière générale. Enfin, bon, après chacun sa vie, mais voilà, on lui laisse la place qu'on veut bien lui laisser. Mais le sexe est important aussi dans la préparation de la compétition et non mais c'est vrai parce que en fait maintenant on nous
bah, tant avant, mieux, ça détend.
Avant on ne disait rien, mais maintenant on vous dit bon voilà messieurs, si vous, voilà il se passe quelque chose, vous risquez d'être fatigué, etc. Mesdames, avoir un taux pic, enfin bon, pas mal de petites choses, on vous informe en fait.
D'accord.
Et oui, il y a des périodes où le plan finalement est tellement important que votre vie de couple devient une. Je dis pas qu'elle passe à la trappe, mais on a tous eu. Moi, je connais aucun athlète qui n'a eu aucune difficulté. Je parle pas de sentiments, je parle vraiment de la vie au quotidien et en l'occurrence de très privé, quoi. Mais parce que finalement, ben, on passe quand même 8 heures à se défoncer, quoi.
Ouais,
il arrive des entraînements où tu sors juste en vomissant, en fait, parce que t'as été un peu plus loin que ta limite, en fait. Et ça, juste même l'idée de, enfin, il y a des choses qui deviennent juste plus à l'esprit, quoi.
Ouais,
les envies disparaissent, quoi, en fait. Donc voilà, je suis un peu directe, mais enfin, j'ai essayé de pas trop l'être, mais voilà. Ouais, il y a des périodes forcément compliquées.
Et un autre sujet, du coup, un peu dans cette même veine, sur ton couple, dont on a parlé brièvement, en fait, dans la première partie, donc sur le fait que, fais partie de la communauté LGBT. Mais je sais qu'aujourd'hui, t'es assez impliquée, t'es assez investie quand même dans la cause, au sens où t'es assez active déjà, t'es ouverte là-dessus. Est-ce que quand même tu sens que ça a été dans ta carrière d'athlète ou dans ta carrière professionnelle un frein, peut-être un avantage aussi, je sais pas, à la rigueur.
Alors, comment dire ? En fait, moi, ça. Alors déjà, je viens de la Guadeloupe, donc à l'époque où je vivais en Guadeloupe, c'est pas le seul département où ça se faisait. Hein. On n'est pas obligé non plus de quitter Paris non plus pour que ça arrive ou aller en Russie. Mais il y a une période où on tapait, où on frappait un peu les gens. Ça se fait encore d'ailleurs. Donc en plus en Guadeloupe avec. Le côté l'homme dominant, donc c'était pas si simple que ça. Moi ça a été compliqué, ce qui était ce qui était compliqué à un moment donné, moi, c'est en fait le regard que certaines personnes ont eu à un moment donné. Parce qu'on s'entraîne toute l'année ensemble. Ça signifie qu'on mange ensemble, pendant les périodes de vacances, les gens qui partent en vacances, mais nous, on travaille ensemble, parce que c'est un travail, mais qu'on se douche ensemble aussi, qu'on dort ensemble. Mmh. Et il y a des gens suffisamment cons qui donc, à un moment donné, peuvent juste se dire que, ah oui, merde, en fait... Elle est homo et juste ne pas se doucher du jour au lendemain parce que je suis dans le vestiaire. Ah oui. Parce qu'on est, quand on est dans le vestiaire, enfin, les vestiaires, c'est des douches, enfin, tout est ouvert et puis on se connaît tellement qu'au bout d'un moment, enfin, on est toutes nues, quoi, tout le temps, quasi. Donc, moi, la première fois, ça m'est arrivé très jeune et ça m'avait choqué à tel point qu'au bout d'un moment, la nana, je lui ai dit quand même, mais. On se poilait bien avant, mais et j'ai bien choisi les termes pour le coup. Et vraiment, c'est décevant que tu puisses imaginer que j'ai juste envie de te sauter, quoi. Juste parce que je suis homo. C'est nul, quoi. Mais bon, tant pis. Et pour finir, pour revenir à la question, j'ai été marraine de la Gay Pride cette année, en juin. Même si je vis librement, j'ai aussi choisi Paris parce que la Guadeloupe c'était pas si simple et que Paris je me suis sentie libre et bien et puis sûr. On est nombreux et puis tout le monde s'en fout en fait, c'est ça que j'ai aimé, donc voilà. Après ça a été compliqué pour ma mère et à tel point qu'elle a même monté à un moment donné une espèce de task force avec mes frères pour essayer de me remettre dans le droit chemin, jusqu'à ce qu'un jour elle comprenne vraiment que j'étais pas alcoolique, j'étais pas droguée, j'avais pas une dépendance, j'avais pas un problème en fait.
Ouais, t'étais pas malade quoi.
Et ouais, c'est ça. Et qu'elle comprenne, jusqu'à ce qu'elle comprenne que j'avais décidé d'être heureuse en fait, c'est plutôt ça, et que c'était avec ou sans elle. Ouais. Et pourtant ma mère pour moi c'est vraiment mon diamant quoi. Donc à un moment donné il faut aussi sauver sa peau même pour les gens par rapport à des gens qu'on aime. J'ai réfléchi donc quand on m'a proposé de devenir la marraine de la Gay Pride cette année, c'était alors même si je vis très bien ma vie sans souci. Et que je ne voyais pas vraiment l'utilité de dire prendre le micro et dire oui, je m'appelle Sarah, je suis médaille olympique et je suis lesbienne. Mais en fait, je me suis rappelé que en Guadeloupe, à la période où j'étais, on avait tabassé un gars que je connais par exemple, que dans certains départements, il y a des jeunes qui ont des difficultés, que dans d'autres, dans certains sports et que même des athlètes connus ou des politiques connus, mais putain, franchement, mais portez un peu vos couilles bordel, n'acceptent pas ou ne je parle même pas de ceux qui n'acceptent pas, ne s'assument pas. On est dans un monde de plus en plus libre. Et je comprends pas que les gens ne comprennent pas l'importance de leur poste en fait. Que je parle pas forcément des politiques, parce qu'il y en a quand même beaucoup qu'on voit souvent à la télé et qui ne le disent pas et qui en plus crachent dessus. Et ça c'est vraiment malheureux. Mais je vais parler que du sport puisque je suis à la base là pour ça quand même. C'est important, pour moi c'était important de dire, même si j'ai pas besoin de le revendiquer, c'était important par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu et par rapport à ce que d'autres personnes vivent encore en fait.
Ouais, bien sûr.
De dire ouais, on est comme ça et puis c'est pas grave en fait.
Puis surtout, je pense dans notre entourage, un ami homo, enfin moi je sais que j'en ai plusieurs qui,
oui, très certainement,
qui honnêtement, pour qui ça n'a pas été facile, le coming out n'a pas été facile, même à l'époque d'aujourd'hui, c'est dur, honnêtement, tu parlais de tes parents, je peux imaginer que c'est ultra dur à évoquer, et donc je pense qu'il y a quand même une notion de responsabilité aussi des figures, entre guillemets, un peu publiques comme toi, de montrer que, non seulement on peut être heureux, mais en fait...
Totalement. Ouais. On peut être libre, s'assumer. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, effectivement. Et encore une fois, c'est pas pour... je me définis pas comme, bonjour, je suis Sarah, je suis lesbienne. C'est vraiment pas ça, le truc. C'est que c'est important pour des personnes qui veulent s'assumer et qui ne peuvent pas le faire parce que c'est pas toujours simple et que parfois, effectivement, il y a des endroits où c'est dangereux, même encore aujourd'hui, et même en France. Mais parce que aussi des personnes qui devraient le faire, des ministres, des anciens ministres, des sportifs connus, surtout dans des sports collectifs, rugby ou foot ou des trucs comme ça, des gens qu'on voit à la télé qui sont millionnaires, des gamins, enfin des images pour des gamins quoi, des repères et qui ne le font pas. Ben, j'ai trouvé normal de le faire. Alors, c'est sûr que j'ai pas le même impact qu'un ministre, c'est plus qu'évident, mais c'était important et ça l'est encore.
Je trouve ça super, vraiment. Si on revient, tu me dis une fois de plus, si je veux pas te mettre mal à l'aise, mais je pense que c'est important pour certaines personnes parce que je sais que c'est un moment très difficile dans la vie. Le moment où tu annonces donc à ta famille, alors je sais pas si tes frères étaient peut-être au courant, en général les frères et sœurs sont au courant d'abord, avant les parents qui souvent se voilent la face pendant un moment et à qui c'est pas facile, je pense, d'expliquer la situation. Mais est-ce que, j'imagine, tu te rappelles, mais est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé et tu dis que ta maman l'a pas très bien pris, qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Alors, c'était pas de mon fait. Donc j'ai quitté la Guadeloupe à 18 ans. J'ai eu une copine assez rapidement à Bordeaux quand je suis arrivée à l'internat. Et ses parents l'ont découvert, en fait. Ah. Ça s'est passé comme ça. ouais, nous, on se découvrait, voilà, etc. Et donc le père, qui était militaire, etc. A juste à un moment donné un peu pété les plombs et la mère qui a appelé ma mère, en fait. Ça s'est passé comme ça et ma mère m'a rapatrié pendant les vacances, inquiète, etc. Et la discussion est partie de là, en fait.
D'accord.
Et après, je sais pas comment ça se serait passé, je le saurais jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ma mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment mon diamant, j'ai essayé d'être une autre personne que ce que je suis pour qu'elle soit bien, et en fait ça le faisait sans avoir de copains, hein, sans quoi que ce soit, parce que non, en fait, mais un jour je lui ai juste dit que ouais, je lui ai rappelé que j'étais pas malade, que j'avais pas de problème et qu'en fait c'est
pas
à prendre ou à laisser, en fait. C'était et qu'elle comprenne que pour moi c'est la personne la plus importante sur terre, mais c'est à prendre ou à laisser. Il est hors de question que je sois malheureuse parce que tu as fait le choix de pas m'aimer comme je suis, en fait. C'était juste ça la question. Donc ça lui a pris du temps, ça nous a pris du temps à nous reconstruire, en fait, en tant que voilà, notre relation mère-fille. Après, moi, dans mon sport, c'est vrai que c'est pas quelque chose, hormis le vestiaire, quelques anecdotes, mais rien de grave. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai mal vécu, mais je sais que dans d'autres sports, c'est compliqué. Effectivement, ça peut être des freins dans des sélections, surtout dans des sports collectifs, surtout chez les mecs, des fois, on a l'humour un peu lourd, quoi, y a des blagues sur plein de choses, je vais être cru, hein, mais je peux être que moi-même, donc voyons. En fait, on s'imagine très souvent deux nanas ensemble, surtout dans l'imaginaire des hommes. Mais à partir du moment où un mec, surtout dans un sport collectif où ils se douchent tous ensemble, sait qu'un de ses coéquipiers, pas tout le temps, hein, mais ça arrive encore de nos jours, est homo, c'est une catastrophe parce que autant imaginer deux nanas ensemble, il n'y a vraiment pas de souci, on sait très bien pourquoi. Mais très clairement, un mec, donc l'idée qu'une... Comment je peux être légère,
je pense,
mais voilà, l'idée qu'un autre mec soit juste dans les parages, c'est une catastrophe. Ils deviennent fous, les mecs.
Oui.
C'est quand même dingue. C'est pas parce que je suis lesbienne que je vais sauter sur toutes les femmes du monde.
Non, mais c'est ça.
Et c'est pas parce qu'un mec est gay qu'il va sauter sur tous les mecs. C'est pareil. Réveillez-vous, putain.
Non, mais d'où l'éducation que tu essayes de faire aussi, donc via la Gay Pride dont tu parlais.
Ouais.
Il y a d'autres associations éventuellement que tu soutiens, parce que justement, je voulais te parler aussi de tes engagements divers. Je sais que, bon, je savais qu'il y avait la Gay Pride, mais je ne savais pas s'il y avait d'autres associations. Et je sais que dans d'autres domaines aussi, tu t'impliques. On en a parlé au début de l'interview, il y a quelques minutes. mais où tu expliquais que, ben voilà, maintenant, en fait, tu voulais quand même aller vachement dans le partage et dans l'aide, et donc dans un engagement certainement, et donc je sais que bah typiquement tu es dans l'association Premier de Cordée, etc.
Ouais.
mais est-ce que ça fait partie aussi des causes que tu soutiens, ou finalement non, c'est un truc plus large?
Oui, quelques associations, un peu les plus connues. Et je croise encore, d'ailleurs, quelques personnes de bureaux, enfin des bureaux de ces associations. Mmh. Et il y a une association, j'ai vu un reportage dessus il n'y a pas longtemps, ACT UP, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, c'était l'association qui allait dans les bureaux des pharmacies. Il y a encore, c'était au début, quelques années après le SIDA, enfin le début du SIDA, enfin cette période-là, et qui arrivait avec des seaux de peinture rouge. Et à un moment, qui faisait croire que c'était du sang parce qu'il le diluait d'une certaine manière, et puis qu'il balançait sur les gens ou sur les murs. Et ils avaient des actes très violents, mais en tout cas, ils ont quand même fait bouger certaines choses, quoi. Donc oui, je soutiens quelques associations et surtout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est par exemple, ben, il y a quelques mois de ça, j'étais sur une manifestation avec des gamins qui faisaient de l'athlétisme, et un gamin qui courait et qui gagnait pas, et son père qui lui dit, tu cours comme une femmelette, ou je sais plus, un truc horrible. Alors, je me rappelle plus exactement. Donc, le gamin était effectivement un peu efféminé. C'est pas mon gosse. J'ai pas de gosse, d'ailleurs. J'en ai pas encore. Mais c'était juste impossible de rester là et ne rien lui dire, quoi. Parce que, autant il est important pour moi d'échanger dans des collèges et des lycées avec des gamins, etc. Mais c'est aussi important, en fait, d'échanger avec les parents. Les parents, on grandit dans notre environnement et puis on apprend des gens qu'on côtoie, des gens qu'on rencontre, des voyages qu'on fait, etc., de notre environnement, mais on apprend énormément forcément de nos parents à la base, des valeurs et etc. qui nous transmettent. Et il était quand même important pour moi de dire à cet homme que déjà il mettait une pression de dingue sur son fils, que ouais, il était peut-être pas sur la première marche, mais qui s'efforçait quand même de faire ce qu'il fallait, et surtout d'aller à fond sur son truc, quoi, et que c'est pas en le rabaissant que ça va aller mieux, en fait. Et surtout, mais c'est quoi courir comme une femmelette, ça veut dire quoi, en fait?
Rien dit.
Vous vous rendez compte qu'à un moment donné votre gamin il va voter, qu'à un moment donné il va devenir un homme, et que lui il va peut-être aussi avoir des enfants, que ce que vous dites, en fait, ça reste ancré, qu'à un moment donné, lui aussi, il va transmettre quelque chose à son gosse, et vous avez vraiment envie de ça? Bon, bien sûr, ça s'est mal fini, mais l'important, c'était de le dire.
Ah ouais.
Et c'est important de le faire.
Je suis d'accord. Et du coup, donc tu t'engages dans cette association, enfin dans diverses associations, tu agis du coup au quotidien quand tu rencontres des personnes pour lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est normal. Et donc, est-ce que tu peux me parler du Premier de Cordée aussi, qui est une autre association que tu soutiens?
Alors, Premier Cordée. Alors, je suis membre effectivement de Premier Cordée. C'est une association en fait qui essaie de changer le regard du handicap d'une manière générale, en faisant en l'occurrence c'est pas des team building, mais des interventions dans des entreprises. Spécifiquement, j'ai un peu de mal, et surtout qui s'adresse à des enfants hospitalisés. Ça peut être plus ou moins léger, comme ça peut être quelque chose de, enfin une maladie, quelque chose de grave, etc. Et en fait, l'idée, c'est de faire intervenir des athlètes, des personnes bah, qui voient à la télé, etc., ou ailleurs, enfin peu importe, mais des athlètes connus ou moins connus, et de passer un moment avec eux, passer un moment. Par exemple, Kylian Mbappé, c'est notre parrain cette année. Et il nous fait énormément de bien. Je pense que vous avez vu aussi qu'il nous a renversé une partie de sa prime de la Coupe du Monde.
C'est assez incroyable.
Ouais, ça fait des années qu'on se bat et que c'est pas toujours si simple. D'habitude, on fait en fin d'année un petit concert sur une péniche avec les bénévoles, etc. Bon, c'est vrai qu'avec Kylian, c'était encore dimanche dernier d'ailleurs, on était à l'Olympia. Hein. On passe de la péniche à une petite vingtaine de personnes.
Il y a un petit level up. Là.
Exact. Avec des gars, des personnes, des chanteurs de TF1, je veux dire, la Starac, etc. etc., etc. Et Louis Bertignac, Zazie, enfin. C'est pas pareil. On a d'ailleurs encore merci à toutes les personnes qui étaient présentes et aux entreprises partenaires, etc., parce qu'on a quand même pu récolter 90 000 euros dimanche.
Ah ouais. Donc
Merci aussi Kylian, c'est important de le dire. Donc l'idée, c'est qu'effectivement Donc si je prends son exemple à lui, c'est d'aller dans un hôpital, faire une surprise aux gamins et passer un moment avec eux, échanger
être,
avec eux et puis
être, mais comme tellement
des
heureux.
Un peu de foot avec eux, si c'est du foot, moi ça a été de l'escrime, d'autres du judo et c'est génial parce que déjà ces gamins, c'est assez souvent des gamins qui ont, enfin moi j'ai toujours été scotché par leur discours quoi. Il y a eu des gamins, enfin moi j'en ai connu une en fin de vie, c'était très compliqué parce que je l'ai pas revue. Et pendant un moment, j'ai un peu arrêté. Et en fait, ils sont jeunes, mais ils sont tellement matures, ils ont un tel, je sais pas si détachement, j'en sais rien, mais
tu dirais ils ont quel âge vers
8 ans, 10 ans, enfin ça dépend. Donc ça peut être un Équerre, ça peut être à Port-des-Lilas, enfin un peu partout et pas qu'à Paris mais aussi en métropole en fait parce qu'on a plusieurs antennes. Mais c'est surtout que on sent que la maladie les change en fait, ce sont plus des gosses, ils vous parlent mais vraiment comme des adultes et des fois vous les entendez rassurer les parents, mais c'est dingue, vraiment c'est dingue. Et ça leur apporte un moment de, ils pensent à autre chose, ils sont plus dans les médicaments, les machins, les trucs, etc. Ils pensent à autre chose et ça fait aussi du bien aux parents, on s'en rend compte. Donc premier de cordée, n'hésitez pas à nous soutenir.
Voilà, je mettrai les liens dans le descriptif du podcast et puis concrètement, on peut aller sur le site internet, c'est ça, de Premier de Cordée, ouais. Et éventuellement faire un don.
Faire un don, voilà.
Si avec jamais les vous êtes athlète, n'hésitez pas. En plus, voilà, les
ou adhérer aussi.
Tout ça, adhérer.
Ouais.
Mes dernières questions, du coup, c'est de parler un petit peu plus routine et vie perso. Et déjà, ma première question, c'est est-ce que tu peux me parler de ton entraînement? Parce que tu as dit que c'était difficile, évidemment, et je sais qu'en plus, maintenant, tu as une forte tolérance à la douleur. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu, à l'époque où tu t'entraînais, par exemple, pour les JO, qu'est-ce que c'était une journée de Sarah Danint? Déjà, à quelle heure tu te lèves le matin? C'est quoi ton petit-déj? Tu fais combien d'heures de sport par jour? Enfin, vraiment, étape par étape, à quoi ça ressemble une journée d'un sportif de haut niveau qui s'entraîne vraiment, comme tu dis, pas juste pour être à son niveau, mais pour être au-delà même et pour faire des choses extraordinaires?
Là, pour la question, j'ai pris quelques notes. Ah. Pas que je m'en souvienne pas, mais c'est juste que finalement, il y a des choses qui sont juste naturelles et auxquelles je penserais pas forcément, en fait. C'est juste ça. Alors, il y a eu deux périodes, en fait. Une période où je travaillais. J'étais aux trois quarts temps. Donc, je travaillais entre 9h et 16h. Je me levais assez tôt pour m'entraîner avant le boulot.
Ouais.
Donc, des fois, je m'entraînais à 6h30 ou 7h, enfin, assez tôt. Que ça soit aller courir, une muscu, enfin, voilà. Ou nager, parce que j'adore nager le matin avant d'aller au boulot. Ensuite, je bossais et puis je me rentraînais l'après-midi. Ou une période où je travaillais aussi à temps complet de 9h à 19h. Et dans ce cas-là, je m'entraînais parfois le matin, mais très souvent le soir, entre 20h et 22h, 22h15. Ça, c'était vraiment raide parce que du coup, j'ai jamais beaucoup dormi, mais la récup, c'est quand même assez important.
Ouais.
Mais si on parle de période JO, où là, j'étais détaché en tant que sportif de haut niveau, un peu plus détaché. Une journée type, c'était se lever assez tôt, effectivement, selon les périodes, l'escrime, c'est pas un sport où, de poids, mais une catégorie, plutôt des catégories d'âge, mais quand même, le poids est assez important pour l'explosivité et l'endurance. Ouais. Moi j'aime la vie, j'aime vraiment la vie. Non, mais c'est important de le dire parce que j'aime bien manger, je suis quand même un peu gourmande, que j'aime beaucoup, enfin beaucoup c'est un peu fort, mais j'aime le bon vin et surtout j'aime le partage. Donc pour moi, un bon resto ou une bonne bouffe avec des potes, une bonne raclette, une vraie bouffe, pour moi c'est super important et cet échange-là il est riche. Et ou une bonne pizza vraiment maison, un truc fin avec une bonne glace, c'est quelque chose que j'adore. Pour autant, quand on est en période olympique, ce sont des choses qui ne rentrent pas dans le plan. Donc au début, peut-être qu'on a un peu de mal, et je pense que moi, j'ai jamais eu de mal à m'arrêter d'en manger. C'est juste qu'à un moment donné, ces choses ne rentrent juste plus dans le plan et on a à tel point qu'on en a juste pas envie, on n'y pense pas.
Tu avais des périodes en fait, mais j'imagine qu'ils peuvent être assez longues, où vraiment tu avais un régime alimentaire qui était beaucoup plus restrictif que les jours normaux, quoi.
On n'y pense vraiment pas. Mais je sais pas si c'est. Enfin, je suis contre la restriction parce que ça amène trop de troubles, d'angoisse, de
et frustration,
surtout
quoi.
Ouais, surtout alimentaire parce que l'alimentation c'est lié à des souvenirs, les odeurs nous rappellent des moments ou des gens et donc voilà.
Donc à l'époque, quand tu dis que tu te levais tôt, c'était quoi, vers 6-7 heures, un truc comme
toujours
ça?
Toujours 6h30 à peu près.
6h30.
Parfois, je m'entraînais le matin avant de commencer la journée. De toute façon, généralement, en période olympique, les journées commençaient par le sport. Enfin, et se terminaient aussi par le sport d'ailleurs. C'était vraiment à temps complet. Donc on pouvait s'entraîner aussi bien à 7h qu'à 8h du mat. Pendant, je sais pas, 3h le matin, quelque chose comme ça.
Et c'était plutôt de l'entraînement de combat ou c'était plus vraiment renforcement musculaire, endurance?
Ouais, le matin, c'était plutôt du physique en renforcement musculaire, muscu ou des leçons. Les leçons, c'est des moments où on est avec l'entraîneur en face-to-face et on fait vraiment des répétitions de mouvements à tel point que ces mouvements deviennent juste des réflexes quand on est en compète, en fait. Et je vais d'abord revenir sur le petit déjeuner, parce qu'on a une tendance à prendre un petit déjeuner genre lait animalier et céréales. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je suis pas forcément gluten-free ni... contre le lait animalier. D'ailleurs, j'adore le fromage.
C'est
un vrai problème, et c'est vrai. Mais à un moment donné, quand on est athlète de haut niveau et qu'on veut limiter les inflammations, les tendinites, etc., donc oui, le lait animalier, on s'en sépare, au maximum en tout cas. Et mon petit déjeuner ressemblait plutôt à quelque chose de consistant, genre un œuf... poché ou au plat avec du bacon, le gras du bacon, parce que assez souvent les gens sont très protéines, viande blanche, blanc d'œuf. Et le gras est important, le bon gras. Et puis le gras c'est important, enfin on en a besoin en fait, faut pas juste s'assécher tout le temps. Un peu d'avocat si possible ou pas, ou du riz ou des pâtes, enfin. Après, pareil, là, je suis plutôt sur des pâtes de riz ou des pâtes de quinoa, voilà. Un tout petit peu, hein, parce qu'on est quand même au petit-déj. Hein. Là, on est encore au petit-déj. Et puis, une tartine de beurre avec du miel ou, enfin, un apport, en tout cas.
Un peu en sucre, quand même, ouais. Rapide.
Et la grosse erreur aussi, je l'ai faite pendant longtemps, c'est un petit jus d'orange et citron pressé, mais en fait, non, surtout pas. Ça, je l'ai appris assez tardivement dans ma carrière, mais en fait non, ça casse les fibres et il est préférable de manger l'orange plutôt que de la presser.
Ouais.
Après, voilà, on avait l'entraînement du matin où là, pendant bien 3 heures déjà, on se faisait déjà déchirer. On est à 8 heures du mat, hein, donc en fait c'est un vrai boulot. Donc c'est comme si vous partez et que vous avez entre 8 heures et 11 heures, vous avez un gros objectif à remplir dans votre boulot. Et c'est exactement ça. Donc on se faisait mal. On se faisait mal parce qu'on savait pourquoi on était là aussi. Que ça soit aller courir, où on se protégeait bien en période, parce que des fois on allait courir, il neigeait, il faisait moins, que ça soit en Russie, parce que ça nous arrivait de le faire, ou en métropole, c'est pareil. Après le physique, on avait une période, alors moi j'étais étirement un peu, pas trop d'étirement, parce que où c'est plus efficace, c'est quand même à froid, malgré ce qu'on pense. Donc une petite récup, quelque chose vite dans la demi-heure, un apport glucidique assez important, quelque chose de sucré. Moi, ce que je trouve le plus efficace après le sport pour l'apport, c'est la banane. Alors moi, je suis plutôt plus naturelle que de prendre... j'ai utilisé des poudres pendant pas mal de temps. Enfin, je parle de poudres genre Isostar, les trucs de ce genre-là. Je parle pas de poudres masse musculaire, les trucs de ce genre, je suis assez contre. Mais chacun fait comme il veut.
Dans ton sport, je pense pas que ça avait d'intérêt.
La masse musculaire, c'est important pour l'explosivité, mais pas non plus Hulk, parce que ça servira à rien, ça te ralentira plus qu'autre chose.
Ça devient lourd aussi après.
Ouais. Ensuite, le déjeuner. Alors, le déjeuner, ça pouvait être quelque chose, je sais pas, une viande blanche, ou poisson, beaucoup de légumes, même si pour moi, encore maintenant, les légumes, c'est plutôt de la déco parce que c'est beau, ça met de la couleur.
C'est pas ton truc.
Ah, moi, je suis carnivore et j'aime la glace. Donc.
Voilà, ce sera dit.
Et je fais attention d'autant plus pour aujourd'hui avec l'impact justement de ce que ça représente pour la planète de consommer de la viande. Donc voilà. Donc, des légumes et puis un peu de quinoa, de pois, des choses de genre.
Légumineuses,
exact. Le soir, plutôt lentilles. Enfin, l'après-midi, on avait encore une séance d'entraînement. En fait, on s'entraînait 8 heures par jour.
Oui, c'est ça, j'allais te demander. C'est 8 heures par jour. Hein,
entre 6 heures et 10 heures, ça dépend des périodes. Mm. Très rarement 12, mais voilà, ça fait à peu près 8 à 9 heures par jour. À côté de ça, après l'entraînement, là l'après-midi, c'était déjà le matin. Moi, je suis pas du matin. Je pense que tu l'as vu à mon bonjour, Pauline, ce matin. Et cet l'après-midi, c'était des matchs. Et là, en fait, ce qui était bien, c'est que comme tout le monde jouait le jeu, en tout cas en période olympique, c'est que on se tapait dessus.
Ouais, c'était un vrai entraînement, quoi. Enfin, même pas de l'entraînement, c'était une compète.
C'était une compète, quasi à chaque fois. Mmh. On se tapait vraiment dessus.
Mais c'est génial.
Et même si on était très souvent tous copains, il pouvait arriver, ou copines, il pouvait arriver à un moment donné que, on se fasse un peu mal et que ça monte un peu dans les tours. Ça, et chez les mecs, ils sont assez, parfois sanguin. Un peu nerveux et sanguins, ça pouvait un peu déraper, mais c'était quand même assez rare. Donc après l'entraînement, il y avait une période de récup avec un kiné qui nous massait ou encore quelques petits étirements, etc. Et on avait toujours des séances d'abdos. Après, on avait des séances collectives, mais chacun aussi s'entraînait de son côté parce que ça, même si on était partenaire, on était aussi adversaire à certains moments. Ouais. Donc, comme beaucoup d'athlètes, on s'entraînait seul dans notre coin, face au miroir, en plus des entraînements collectifs, mais aussi seul en dehors de l'INSEP, comme
ouais, bien sûr.
Parce que ça fait partie du jeu, quoi. Et le soir, donc voilà, un bon repas. Alors c'est vrai que comme beaucoup, moi j'aime beaucoup partager avec mes potes. Et c'est vrai que des fois, on fait juste le choix de se reposer parce que le sommeil est important.
Alors, j'allais te demander justement, parce qu'avec 8 heures d'entraînement par jour, il faut quand même dormir un peu, j'imagine.
Alors moi, j'ai jamais beaucoup dormi en fait. J'ai toujours dormi 4-5 heures. Alors avec des périodes, deux périodes quand même dans l'année où je suis vraiment fracassée, où je mets quelques jours à récupérer. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais en période olympique, je faisais l'effort de me coucher plus tôt, ce qui était pas si simple. Et en fait, on a tous un rythme différent. On n'est pas tous obligés de dormir 8 heures pour être en forme le lendemain et être efficace. On n'est pas tous obligés de dormir 6 heures. Moi, je tournais peut-être aux alentours de 5 heures ou 6 heures en grosse période parce que de toute façon, le corps est fatigué et l'esprit aussi. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il est préférable de dormir de 23 heures à 7 heures du matin que de 2 heures du matin parce que ça aussi ça compte en fait corps récupère pas de la même manière, ne régénère pas de la même manière non plus ce que je dis c'est que qu'on soit athlète ou qu'on soit entrepreneur ou autre, le sommeil a une part super importante dans la prise de décision le lendemain, dans la forme physique mais la forme mentale, et c'est souvent quelque chose qu'on néglige. Alors on se dit toujours il faut être en forme physiquement, il faut aller courir, il faut machin, et puis il faut manger correctement, mais on oublie assez souvent le sommeil, et pourtant c'est, pour moi c'est le premier point en fait, c'est la chose la plus importante. Alors j'avais pris, comme j'ai dit, quelques notes. Il y a un truc que je fais aussi en période de compète, c'est que, alors déjà moi j'ai horreur des mails parce que je trouve ça ça casse, c'est démotivant, je me dis que si c'est important, à un moment donné, d'ailleurs, t'as dû très certainement dû t'en rendre compte.
On a plus échangé par SMS que par mail.
Parce que je réponds pas assez rapidement aux mails, et je me dis de toute façon que si c'est important, les gens trouveront forcément un moyen de nous contacter vraiment, en fait. Donc, moi, c'est pas un truc qui m'inquiète, mais c'est soporifique. Les mails, c'est un truc, ça m'insupporte. Il y a une application que j'utilise, Spark, qui est assez utile là-dessus, qui est plutôt plus agréable que les autres applis d'habitude. Et il y a un truc que je fais, donc déjà, je lis très peu de mails en vraie période olympique. je me coupe des messages en fait du stress des autres.
Ouais, c'est ça. Puis pas trop regarder ce qui se passe ailleurs et pas trop, ouais, j'imagine, écouter la presse et compagnie qui peut te démotiver.
Ouais.
Ou
tu restes dans ton truc, dans ton jus, dans sa bulle, etc. Et un truc aussi très important que je fais encore aujourd'hui à certaines périodes, en tout cas une période de gros challenge, que ça soit professionnel ou de ma boîte que je suis en train d'essayer de monter petit à petit, enfin de mon projet en tout cas que j'essaie de monter petit à petit, c'est alors je pense qu'à un moment donné on aurait pu me greffer mon téléphone à la main. Ben, j'essaie de le couper à 19h.
Coupe à 19h,
ouais,
complètement.
Et c'est chaud. Hein.
C'est génial. C'est chaud, mais c'est génial.
Il m'a fallu des jours pour arriver à le faire. Ouais. Parce que déjà, c'est. Alors, les notifs, je les enlève. Plus de notifs sonores, sauf peut-être pour les SMS encore.
Ouais, moi aussi, il est tout le temps silencieux. C'est un problème parfois, d'ailleurs, parce que je loupe des appels, mais. Bon.
Mais encore une fois, si c'est important, on arrive à nous joindre finalement. J'utilise le soir, je ne sais pas comment elle s'appelle cette fonction, de
mettre en mode nuit, c'est ça,
en
ton
mode
téléphone
nuit.
Ouais, moi aussi, je trouve ça assez génial.
C'est parce que quand on n'arrive pas à dormir, surtout ne pas se mettre sur son téléphone, quitte à avoir un écran lumineux, autant que ça soit la télé, parce qu'elle est plus éloignée que le téléphone. Et en fait, la luminosité du téléphone recule la sécrétion de mélatonine, qui est quand même l'hormone qui nous permet de dormir. Ouais. Donc j'essaie de couper le téléphone à 19h et c'est pas si simple. Et voilà.
Un bon conseil, je pense. Ouais.
Donc après, voilà, donc, j'ai parlé un peu de nourriture. Donc étirement, muscu, on avait de la muscu trois fois par semaine. On faisait du cardio deux, trois fois par semaine. Et à côté de ça, on avait aussi les entraînements d'assaut, les matchs, les leçons avec les entraîneurs, beaucoup de récup de jambes avec les kinés.
Ouais,
il y avait un moment que j'adorais, mais vraiment beaucoup. C'était la cryothérapie.
Ça, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais testé.
Oh oui.
Pareil que c'est.
C'est un moment douloureux, hein, parce qu'on monte quand même à moins 40 ou moins 60,
quel
je sais
enfer.
Plus.
Mais par contre, ça fait vraiment un effet.
Ouais, avec des sas différents, bien sûr, mais ça fait un effet de fou, en fait. C'est super efficace. Alors, il y a deux choses que j'adorais. Je supporte pas le froid. Hein. C'est la cryothérapie ou les bains de glace.
Oh. Ah,
ça me fait froid, rien que d'y penser. Parce que, encore la cryo, c'est le vent et c'est du souffle. Donc, ça fait un peu mal, ça fait un peu, et c'est efficace. Mais les bains de froid, c'est vraiment beaucoup plus efficace. C'est pire parce qu'en fait, ça rentre dans la chair, en fait.
Ouais.
Et on a l'impression d'avoir les os même froids.
Quelle horreur.
Donc, à l'inverse de la cryo, c'est que ça reste, ça reste plus longtemps. Un vrai moment de bonheur.
Et, mais efficace.
Mais super efficace.
Bon.
Donc il y avait ça et puis j'oublie le nom, mais c'est une espèce de pistolet qu'on vous colle sur une douleur, une contusion que vous avez, que ce soit musculaire ou osseuse. Et le kiné se fait toujours un malin plaisir de sourire quand il vous le fait. Et c'est comme si vous aviez un marteau-piqueur qui vous tapait exactement
D'accord.
au moment, enfin sur le lieu.
Et c'est censé améliorer aussi le...
Bah, c'est pas censé, en fait ça fait saigner un peu plus,
D'accord.
mais pour récupérer plus vite.
D'accord, ça dilate un peu les vaisseaux et du coup,
ouais.
J'imagine derrière, tu...
C'est super efficace. D'accord. Et un dernier petit tips, il y en a sûrement d'autres, mais là qui me vient, c'est y a un truc qui m'a toujours fait rire quand je prenais l'avion et pourtant, on voyageait quasi tous les 15 jours. On a un peu fait... J'ai eu cette chance avec le sport justement de quasi faire le tour du monde. Enfin, il me reste pas énormément de pays en Amérique du Sud, par exemple, en Asie, j'en ai fait qu'un, c'est la Chine, mais sur le globe, j'en ai quand même fait pas mal. En Amérique latine, je crois qu'il me doit en rester peut-être deux. Enfin, voilà. J'ai vraiment eu cette chance donc, de pouvoir voyager, de rencontrer des gens, de découvrir des cultures différentes, parce que moi, en plus, moi, dans le tourisme, j'aime pas le truc classique.
Ouais, de aller dans un car.
Ouais, non, j'aime rencontrer vraiment les gens et savoir vraiment comment ils vivent. C'est ce qui me faisait toujours marrer, et je porte pas vraiment de jugement dessus, mais un petit peu quand même, je l'entends, c'est les femmes ou même des mecs, mais souvent les femmes avec des chaussures à talons de fou, des jeans très serrés,
ouais.
Maquillage de fou pour prendre l'avion.
Oui, ça moi aussi, ça me dépasse.
C'est totalement
ridicule.
Moi, je suis
ridicule. Genre en pyjama.
Mais c'est ça qu'il faut justement. En fait, quand on prend l'avion, on est censé avoir un jean large ou un bas de survêt, un truc en tout cas pas près du corps parce que ça permet déjà au corps de respirer parce que quand même les choses, le corps se dilate un peu avec l'avion. Nous, dans le sport, on a tendance à utiliser des bas de contention parce que c'est super efficace. Sur les longs courriers, les vols de 24 heures ou enfin même de 8 heures, déjà se lever toutes les 2 heures et faire 5 minutes juste, on va pas dire d'étirement, mais on bouge un peu et puis on essaie d'activer un peu le retour veineux en se massant de la cheville au mollet. Et surtout en arrivant, on s'étire un peu et puis on fait une petite séance de sport entre 5 et 1 heure, quoi, que ça soit une demi-heure, pardon, que ça soit aller courir, que ça soit je sais pas n'importe quoi, parce que du coup le retour veineux, enfin le retour est plus rapide. Et en fonction du décalage horaire, par exemple, quand on partait à Sydney, quand on partait en Australie, on essayait très rapidement, enfin les 2 dernières semaines, de se caler au plus tôt sur l'heure de décalage, l'heure de là-bas en fait. Donc décaler petit à petit l'heure de repas et de sommeil. Ce qui n'était pas si simple, mais qui portait quand même qui faisait son effet.
Génial.
Côté encore nutrition, côté boisson, Vichy Célestin, les bars, ça a l'air con, mais c'est quand même super efficace.
Ouais, le magnésium.
Et
ça aide énormément.
Et puis voilà quoi.
Bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, il y a plein de tips.
Un petit truc encore, c'est un. Alors, encore une fois, je suis très nature. Et proche de nature, c'est le thym et le romarin.
D'accord.
Les décoctions de thym et de romarin. Le thym pour les défenses immunitaires, c'est super efficace. Donc vous faites ça un petit peu là en cette période.
Juste tu mets de l'eau chaude, du thym.
Tu mets de l'eau chaude, tu mets du thym dedans, si possible frais, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et tu fais bouillir.
En mode inhalation un peu, décoction.
Tu fais bouillir et qu'une fois que ça commence à bouillir, tu coupes le feu et tu laisses infuser pendant un certain temps. Ça stimule pas mal les défenses immunitaires. Beaucoup d'athlètes s'en servent. C'est très efficace. Et le romarin qui est aussi très efficace au niveau du ventre. Et sachant que je trouve que, enfin, nous dans le sport, on a beaucoup de tendance. Enfin, notre corps, c'est notre outil de travail.
Ouais.
Et je ne sais pas si c'est qu'en France, mais on a beaucoup de tendance à ne pas écouter ce que nos tripes nous disent, alors que le vrai cerveau humain, enfin le cerveau de la réflexion est au niveau de notre tête, mais notre cerveau physique, il est au niveau de notre ventre en fait. Mmh. Quand on a mal, quand on est amoureux et qu'on a une histoire qui se déchire et ça nous fait mal, ça nous prend les tripes, et quand on a un coup de cœur ou quand on a, enfin, quelle que soit la sensation forte qu'on éprouve ou quand on perd quelqu'un, ça se passe toujours au niveau du ventre. Et le ventre a vraiment une part importante à jouer. Et le romarin aussi permet donc justement
de s'en occuper un petit peu. Génial. Bah, écoute, j'essaierai de mettre tous ces conseils. Je réécouterai ça soigneusement. Et déjà, j'essaie de les appliquer. Pour certains, peut-être pas la cryothérapie. Et puis, je vais essayer aussi de les mettre dans les notes. Ma dernière question, du coup, c'est au niveau des livres. Tu sais que j'aime bien cette question. C'est en gros, soit tes livres préférés, soit les livres que t'as le plus offert, les livres qui t'ont le plus marqué. C'est pas forcément récemment. C'est pas forcément des livres sur le sport. C'est pas forcément des livres business, tu vois, sur le marketing. Mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué?
Alors, les livres, bah là, pareil, j'ai aussi pris une petite...
Qui a réfléchi.
Des petites notes, ouais, parce que c'est important, il y en a beaucoup. Alors moi, je lis depuis quelques années. Mm-hmm. En fait, avec le sport, j'avais un timing qui était...
très pas le temps.
Ouais, j'étais prise entre... Je me levais vers 6h moins le quart, et j'étais prise entre 6h30 et 22h30, la fin de l'entraînement, plus le temps de rentrer chez soi, manger, etc. Mm-hmm. Donc finalement, entre 6h et 23h30, une journée, je courais tout le temps, et c'était vraiment au millimètre d'ailleurs. Parce que 5 minutes de retard, des fois, on te fait faire tellement d'efforts physiques pour 5 minutes de retard que t'avais vraiment pas envie d'être en retard, quoi. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écoutais beaucoup de podcasts, déjà, sur le marketing, sur le growth hack, sur le développement personnel. Je lisais beaucoup via Kubo et
Kindle.
Elle m'échappe, l'autre appli.
Audible.
Blinkist. En fait, ce sont Cooper et Blinkist, ce sont des C'est des applis qui permettent de faire des résumés.
Exactement.
Après, le résumé, bon, c'est chacun aussi comment on voit les choses.
Ouais, bien sûr.
Et je mettais beaucoup de YouTube. C'est-à-dire que quand je rentrais dans ma voiture, j'avais déjà une playlist et je mettais juste play et puis je vivais ma vie. Et je regardais aussi beaucoup de films autobiographiques.
Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand tu fais du sport, tu peux faire d'autres choses en même temps, comme bah, écouter un podcast. Typiquement, c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je fais de la course à pied, par exemple. Mais lire, tu fais que ça. Donc j'imagine que ça ne devait pas être simple. Ouais.
Mais pour autant, j'ai lu quelques bouquins assez inspirants, donc très jeune sur André Agassi et Jordan, et qui m'ont un peu poussé. Mais là, aujourd'hui, ce qui m'a marqué, là je vois le titre déjà et ça me bouleverse un peu, c'est Still Alice. Ça c'est un film. C'est un film Still Alice. C'est un film qui parle de la maladie d'Alzheimer et des impacts sur le malade et sur la famille. Mm-hmm. Je vous invite à le voir.
C'est un film.
Et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alice.
Je le mettrai dans les notes, ouais, je vais le regarder, je ne le connais pas.
Il est vrai.
C'est une histoire vraie en plus.
C'est une histoire vraie et puis moi je le vis actuellement. Ouais. Et c'est vrai, c'est dur et c'est un film vrai. Vraiment, je vous invite à le lire, à le voir. Côté bouquin, la deuxième moitié, c'est un livre de Asita Kanko, que j'ai découvert il y a quelques années. C'est une Belge. Ce livre, il est juste bouleversant, mais vraiment. Alors, j'avais pris des notes, justement. Donc, c'est un plaidoyer sur le féminisme et qui confronte énormément ses expériences personnelles à la dure réalité du sort des femmes dans la société. D'où le constat, d'ailleurs, qui les femmes, la deuxième moitié. Il s'appelle La deuxième moitié, ce bouquin. Et donc, les femmes qui ne sont pas vraiment toujours considérées et traitées à leur juste valeur. Il est... Quand on le lit, on prend un peu de temps à le lire parce que des fois, il y a des retours d'expérience qui sont juste bouleversants. Et on sent qu'elle a pris le temps de faire des recherches. Il est vraiment.
C'est plus
impactant.
Un roman ou c'est plus un.
Ah, c'est pas un roman.
C'est pas un roman.
Non, elle interroge des gens, elle interview, elle s'est renseignée.
C'est presque une thèse, quoi. Enfin, pas une thèse, mais un documentaire.
Il est vraiment impactant. Alors, il y a How Google Works, que j'ai lu il y a un peu plus d'un an. Ce que j'aime avec ce bouquin, c'est que... ça, ce serait génial. Google nous explique comment l'innovation vient au sein de leurs salariés et surtout comment ils gèrent cette innovation. Et le management, en fait, on est encore un peu en France, même si les choses sont en train de changer, dans un management assez vertical ou une communication verticale avec un DG qui fait passer à ses directeurs de projet, qui eux-mêmes font passer à leurs salariés. Ouais. Et en fait, Google et d'autres boîtes maintenant, on a un entretien annuel, trimestriel, mensuel, où le manager dit au manager, donc déjà manager, voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais en fait, le manager, lui aussi, fait son retour au manager. Et ça, c'est juste important parce que je regarde encore aujourd'hui dans des boîtes dans lesquelles j'ai évolué, où des fois, on a juste envie de leur dire, mais peut-être que tu peux t'améliorer toi aussi sur certaines petites choses, surtout en l'occurrence la communication. C'est finalement nos managers. Eux, ils ont juste leur retour du DG ou de...
Mais donc, ils ne voient pas vraiment comment les gens...
Et ça, je trouve ça vraiment powerful parce que si tu joues vraiment le jeu, bah, tu grandis.
C'est sûr.
Donc, il y a ça. Et puis, le fait que, aussi, quand ils embauchent des gens, ils n'embauchent pas juste des gens qui sont susceptibles de faire quelque chose de bien. La plupart du temps, et ça, c'est ce que nous, on faisait dans le sport, c'est qu'ils embauchent des gens qui sont plus forts qu'eux.
Ouais.
Et ça, c'est... Quand moi j'en parle, même dans ma société actuelle, il y a des gens qui trouvent que c'est une prise de risque. Prise de risque,
ils ont peur de perdre leur poste.
C'est ridicule, au contraire. Moi, dans le sport, j'ai toujours appris en observant les plus forts et en apprenant de ce qu'ils faisaient, en échangeant avec eux et en les observant. Donc, dans le boulot, je trouve que c'est aussi quand même...
Je rebondis un peu là-dessus. Il y a un bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle OKRs, donc c'est Objectif Key Result. Je vous avoue que je ne me rappelle pas du nom de l'auteur, mais c'est lui qui a inventé ce concept, en fait. Donc, il y a un moyen, enfin, c'est une nouvelle manière de manager, et donc, qui est celle, justement, appliquée chez Google. Et en gros, il a collaboré avec Google dans cette, enfin, sur la création, en fait, de leur système de management et juste de fixation d'objectifs. Et le livre est hyper intéressant et je trouve mérite d'être lu. Je les mettrai aussi dans les notes. Okay. Bon, bah, c'est génial.
Et j'en ai juste deux.
Vas-y, vas-y.
Alors, je ne vais pas en parler énormément. C'est Les Brutes en Blanc.
Je ne connais pas.
C'est un médecin qui a décidé d'écrire sur la façon justement dont la communication, le système médical. Il s'est fait déchirer par ses confrères, ce qui est un peu, forcément, entre guillemets, normal. Mais qui dit vrai, Les Brutes en Blanc. Et puis, alors moi, pour avoir été malade, je le comprends, et puis aujourd'hui, d'être en train de perdre ma mère, donc c'est aussi, c'est encore quelque chose que je comprends, parce qu'il y a encore un peu plus d'un an, son médecin nous disait, oui, bon, elle n'a pas grand-chose, etc. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je lui ai rentré. Après, voilà, je suis trash, je suis direct. Clairement, je lui ai dit, mais elle a quoi ? Là, vous foutez de nous, on tourne en rond, dites-nous. Mmh. Et il a fini par dire, bah oui, elle est malade, elle a ci, elle a ça. Et je l'ai engueulé, je l'ai pourri, ce mec. Parce que lui, il avait décidé de faire le choix de nous priver du temps qui nous reste avec elle. Juste parce qu'il n'a pas les couilles de nous dire les choses. Mmh. Et ça, c'est inadmissible. Donc, c'est Les Brutes en Blanc, je vous invite à le lire. Et le dernier qui me bouleverse, je l'ai pas fini en fait, parce que quand j'ai lu le résumé, alors Sheryl Sandberg, c'est la COO de Facebook, qui a écrit Option B, et en fait elle parle de la perte de son, elle a perdu son mari de manière assez horrible, et moi j'ai perdu mon père ça va bientôt faire 2 ans. Et à ce qui paraît, avec le temps, on s'en remet. Enfin, ça va mieux. Donc, je vais attendre encore. quand j'ai lu le résumé de ce livre, j'avais l'impression qu'elle avait juste pris mes mots.
Ouais.
Alors, Sheryl Sandberg, je ne la connais pas. Mais ce n'est pas juste la pensée, mais vraiment les mots.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est tellement violent. Que voilà, ça fait aussi partie de la vie et qu'on se relève, on finit par se relever. Après, elle parle aussi des comportements des personnes qui nous entourent, qui savent pas comment faire, qui savent pas comment nous parler, et qui, au début, moi, j'en ai un peu voulu à mes potes, mais en fait, ils font ce qu'ils peuvent, ils font juste ce qu'ils peuvent et qui savent.
Tu sais jamais comment gérer ce genre de choses. Ouais.
On apprend beaucoup de choses dans la vie, mais on nous apprend pas comment gérer ce genre de choses finalement. Et donc il y a ça, et puis, des années après, enfin voilà, ça va bientôt faire 2 ans, et je commence à avoir mal au bide parce que la date d'anniversaire, c'est une date qui fait vraiment mal. Donc on est encore un peu dessus, et que les gens se disent, mais ça va pas, t'as pas l'air bien, et tu dis, bah ouais, je pense à mon père, et qu'ils te répondent, oh bah ça va, ça fait c'est bon, c'est indélicat, mais bon voilà, Option B de Sheryl Sandberg, du mal à lire parce que ouais, c'est encore frais, mais assez
c'est touchant.
Intéressant. Ouais.
Bah, je vais le lire, c'est sûr. Merci beaucoup, Sarah, pour tous ces conseils, pour tous ces livres qui ont l'air dingues. Et je suis hyper contente parce que je n'en connais aucun. Une fois n'est pas coutume, donc je suis super contente et je vais pouvoir découvrir tout ça. Et je mettrai les notes, bien évidemment.
Ouais.
Ça marche. Bah, écoute, Sarah, je te remercie 1000 fois. Je voulais te demander, est-ce que tu as une dernière question que tu voulais aborder, un sujet dont on n'a pas parlé, que j'aurais oublié ? On a parlé de pas mal de choses.
Alors, moi, j'aimerais rajouter un petit truc.
Ouais. Un message à faire passer.
Ouais, en fait, je travaille dans le numérique. Je travaille dans une start-up qui est spécialisée dans la data et donc l'analyse du comportement du consommateur, ça, on l'a vu. Je me rapproche de beaucoup d'associations, aussi des associations contre le cancer et surtout le fait que le cancer soit pas, surtout pour les personnes qui ont survécu et qui reviennent au boulot, qui sont un peu, on va pas dire affichés, mais qui ont déjà vécu une période assez compliquée dans leur vie, et finalement, ben, on retrouve pas forcément leur poste, ou n'ont pas forcément l'accompagnement ou le soutien, etc. Donc voilà, ça aussi, je vais te donner les liens parce que du coup, là, ça me revient pas là tout de suite. Mais c'est surtout que j'aime beaucoup rencontrer des gens, j'aime beaucoup le partage, et c'est vrai que je trouve que, enfin, pour moi maintenant, il est de plus en plus important d'aller d'utiliser le numérique, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde de plus en plus, pour essayer de changer le monde. Je pense qu'on est, encore une fois, hein, comme je disais, on peut tous avoir un objectif dans nos vies et à un moment donné, switcher pour faire quelque chose d'extraordinaire au sens propre. Donc, être médaillé olympique, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on peut tous faire quelque chose et il faut pas juste se dire, ben voilà, il y a des politiques, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et puis tant pis. En fait, si on se donne tous un peu la main ou on fait tous un petit geste, il y a moyen d'essayer de changer les choses. Alors moi, j'aimerais bien essayer de les changer par le numérique, mais vous pouvez tous aussi faire quelque chose, quoi. Soyons tous ensemble, en fait. C'est juste ça que je veux rajouter.
C'est magnifique. Le plan de Sarah, du coup, a changé. Mais je pense que ça va être un beau plan et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
On verra.
Merci beaucoup, beaucoup, Sarah, pour tout ton temps et puis pour tous ces partages. Franchement, c'était vraiment passionnant et je trouve, enfin, personnellement, j'ai trouvé ça très touchant en plus. Donc, je te remercie et puis peut-être une prochaine fois pour un prochain épisode.
Merci à toi.
Juste une dernière chose avant de te quitter. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on te contacte sur les réseaux sociaux? Donc, je vais mettre déjà évidemment le lien, évidemment, de Premier de Cordée sur le blog du podcast et puis dans le descriptif. Mais est-ce que tu peux me dire aussi si des personnes veulent te contacter, te suivre, quel est le meilleur moyen de le faire?
Alors, Sarah Danante, quasi tous les réseaux sociaux. Donc, assez active sur Instagram et un peu moins sur Twitter. Et LinkedIn aussi, sans souci, et ma page Facebook. N'hésitez pas, je réponds pas tout de suite, parce qu'il y a quelques demandes, et par mail non plus. Mais,
j'ai constaté que les mails...
Ouais, mais je trouve ça soporifique de toute façon, les mails. Mais je prends un peu de temps, mais je le fais, et je pense que c'est ça surtout le plus important. Et surtout, j'aime bien proposer prendre un petit café dans Paris ou boire un verre pour se rencontrer et partager sur les projets.
Merci beaucoup, je mettrai tout ça dans les liens. Puis je te dis à très bientôt pour la suite, peut-être.
Ciao, merci.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.